Mira. Tu vas entendre quelque chose là, tu loues. C'est de ce côté qu'il faut regarder.
À l'œuvre. Comment se crée une œuvre d'art, une pièce de théâtre ou de danse? Dans cette chronique, des artistes ouvrent les portes de leur atelier et de leur univers. Aujourd'hui, rencontre avec Émilie Rousset au Théâtre Universitaire à Nantes.
Une formation au Théâtre National de Strasbourg dans la section mise en scène. Et après cette formation, j'ai créé ma compagnie et j'ai commencé à faire de la mise en scène en dehors de l'école. J'ai travaillé pas mal avec des textes contemporains ou en collaboration avec des auteurs, une autrice en particulier, Anne Cavala. J'ai été en résidence beaucoup à Montevideo, chez Hubert Cola, puis j'ai été associée à la Comédie de Reims par Ludovic Lagarde. Et voilà, j'ai fait des mises en lecture, j'ai fait des pièces, et je pense que une des pièces fondatrices de la démarche qui m'anime aujourd'hui, c'était en 2014, une pièce qui s'appelle Les Spécialistes, qui a été créée au Grand Palais. Sur une invitation à investir cet espace avec une proposition théâtrale, entre guillemets, pour l'exposition des Kabakov. Cette proposition-là, ce lieu, très beau, mais qui est pas un lieu facile, on va dire, pour faire du théâtre, et le fait aussi que c'était une pièce, la commande était une pièce pour... des gens qui passaient en fait et qui venaient voir initialement aussi une autre œuvre que la proposition qu'on faisait. Donc l'idée de faire aussi une pièce un peu en rebond à ce qui était la proposition de l'exposition. Voilà comment est née déjà l'idée d'inventer un dispositif de prise de parole. Donc ça a été des bulles d'écoute avec des comédiens au micro et un public qui se déplaçait et qui écoutait au casque. Et aussi l'idée d'aller faire des interviews de personnes qui seraient des spécialistes, mais pas des spécialistes de l'art, mais des spécialistes qu'on avait envie de rencontrer un peu par ricochet. Cocher autant d'une analogie simple qu'une analogie absurde par rapport à des thématiques soulevées dans l'exposition. Voilà. Par exemple, il y avait une pièce qui s'appelait « Comment rencontrer son ange ?» et on a été interviewé un prêtre ouvrier à qui on a posé cette question. Il y avait une pièce qui s'appelait... Enfin, l'expo s'appelait « L'étrange cité ». On a rencontré une philosophe spécialiste de la cité qui nous a parlé de Détroit. Et c'est vrai que cette pièce a été assez fondatrice d'une manière d'écrire à partir de matières documentaires et puis ensuite à partir d'archives préexistantes, donc soit des archives que nous, on constitue en allant les chercher, ou des archives existantes, qu'elles soient sur le site de l'INA ou... comme là, par exemple, pour les océanographes, les archives d'Anita Conti, autant visuelles que sonores, qui sont à Lorient. Mais aussi, c'est une pièce qui quelque part, qui a été créée en bordure, qui n'a pas été créée sur le plateau. Et cette position-là aussi de ne pas être dans la boîte noire, mais d'être sur des espaces périphériques, m'a permis de penser aussi ma pratique un peu différemment, de manière périphérique et aussi de manière plus libre. Ensuite, je suis revenue avec des méthodologies d'écriture similaires pour créer des pièces vraiment au plateau, dans la boîte noire. Mais j'ai continué à faire des choses, des œuvres, voilà, avec d'autres entrées, dans d'autres espaces. Et je trouve que ça, changer d'espace permet aussi d'ouvrir des façons de faire et des positions différentes. Je suis assez attentif en fait à ça, quoi, de varier les formes. Voilà, créer dans différents lieux, dans différentes configurations, penser des dispositifs, C'est important pour moi. J'aime aussi varier les positions, faire des pièces seules, écrire seules, mettre en scène seules, mais aussi en duo, en coécriture. Donc il y a une pièce qui s'appelle Reconstitution de procès de Bobigny. Les spécialistes, je l'ai créée avec Maya Bocquet. Et les Reconstitution, le procès de Bobigny, est une sorte d'extension reformulée et repensée de la pièce Reconstitution de procès de Bobigny. Et avec Louise Aymon, c'est aussi une collaboration au long cours et multiple, puisqu'on a créé, plusieurs films ensemble, 4, et un cinquième est en cours, des courts-métrages qui font partie d'une série qui s'appelle Rituel. Donc on a créé Rituel 1, l'anniversaire, Rituel 2, le vote, Rituel 3, le baptême de mère, qui a été le point déclencheur de la découverte des archives d'Anita Conti. Et le quatrième volet, Rituel 4, a été en fait une pièce scénique, Rituel 4, le grand débat, où il y a un tournage sur scène et des comédiens au plateau. Et il y a aussi un film qui a été créé à partir de ces images qui s'appelle Le Dernier Débat. Donc voilà, varier les configurations, les positionnements, les collaborations, c'est assez moteur pour moi et j'y suis assez attentive. Travailler avec les archives, en fait, c'est une position, on va dire, d'autrice qui me plaît et me motive parce que c'est une forme de composition, en fait. C'est-à-dire que ça me permet d'avoir des objets à manipuler et à agencer, des objets textuels ou visuels. Je prends beaucoup de plaisir à vraiment pratiquer le collage, le cut-up, l'assemblage et à voir quelle ligne de sens et quelle dynamique de jeu et esthétique ça crée. Et ça me permet, en fait, de travailler le déplacement. Et qu'est-ce qu'un déplacement d'un propos ou d'une image ou d'une archive sur une scène, qu'est-ce que ça éclaire ou qu'est-ce que ça occulte et quelle réflexion ça peut provoquer sur l'objet. En plus, on vit quand même dans un monde avec Internet où on a accès à un milliard de choses. Et cet accès-là, pouvoir s'en emparer, pouvoir créer des circulations et pouvoir se réemparer aussi de tout ce qui est à disposition comme contenu et se le réapproprier, c'est cette position-là, créative et réflexive, que j'aime beaucoup. Et après, dans la démarche plus documentaire, on va dire, c'est vrai que c'est toujours se mettre dans la position aussi d'écoutant, de regardant, d'autres qui ont d'autres pratiques. Ça m'enrichit beaucoup et ça nourrit mon regard et ma propre pratique. Et puis en plus, j'adore ça, aller dans des milieux, dans des zones qui ne sont pas la mienne initialement, ni celle d'où je viens, ni celle que j'ai pu créer ou développer. Donc après, c'est vrai que sur la question du sujet, souvent, on m'associe à une artiste justement un peu à thème, quoi, puisqu'il y a le procès de Bobigny, le féminisme, ou l'océanographie, l'écologie. Mais finalement, le sujet n'est pas si premier que ça dans ma démarche. C'est-à-dire qu'il y a plutôt des envies de dispositifs, des envies de matériaux. Et après, finalement, c'est la réflexion qui naît de ça. Après, oui, la politique m'intéresse, j'ai envie d'y réfléchir et j'ai envie de m'emparer des choses en y réfléchissant, notamment par ce biais-là. Et oui, le féminisme et la nouvelle vague de féminisme m'intéressent énormément et j'y suis poreuse et sensible. Et qui n'est pas sensible à la question écologique aujourd'hui. Mais ça, en tout cas, mon point de départ est rarement de vouloir parler d'un sujet. C'est plutôt la rencontre avec... Là, sur les océanographes, c'est la rencontre avec ce film d'Anita Conti, cette archive-là.
Pour les océanographes, le dispositif qu'on avait envie de mettre en place et d'explorer avec Louise Aymon, mais aussi avec Nadia Leroux, qui a conçu l'espace scénographique. C'est vraiment la question du paysage, je crois. Et comment est-ce qu'on peut représenter ou ne pas représenter, mais susciter un imaginaire autour de ce qu'est la plus grande immensité et qui est autour de la mer, de l'océan. Voilà, ce qui ne tient pas sur scène, c'est sûr. Donc comment est-ce qu'on travaille ça sur un espace scénique, le paysage et aussi ce qu'on projette sur le monde marin, puisque c'est vraiment empreint de légendes et d'une grande fantasmagorie, et en même temps d'une réalité qui sont les animaux qui la peuplent et dont parle Anita Conti. Ce qui nous intéressait aussi, c'est que le monde marin d'Anita Conti, c'est un monde de câbles, de graisse, de ferraille et de tripes. On avait envie aussi, puisque notre rencontre avec Anita Conti part de l'archive film, on avait envie de la montrer, mais on avait envie de jouer aussi sur la construction de la pièce, c'est vraiment de voir qui est derrière la caméra avant de voir les images, pour qu'on puisse avoir conscience aussi de ce que le fait d'avoir apporté ces images et de les avoir saisies était déjà une folie, quelque chose de complètement dingue et exceptionnel. Et c'est aussi la pièce entière, le texte, comme l'espace, est construit sur la question de ce qu'on voit et de ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que comment on joue aussi avec les capacités du théâtre, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup d'images qu'on ne voit pas, on montre des images qu'on ne décrit pas. Et la pièce est vraiment construite comme... C'est aussi un voyage sur le rapport des images et de la mer. En fait, Anita Conti, elle est sur le pont. Elle ramène des images qu'elle filme du pont du navire. Elle est au-dessus de l'eau. Et elle parle beaucoup de la capacité d'imagination des fonds. Donc comment est-ce que les capitaines, elles, océanologues, océanographes, océanistes, peuvent imaginer ce qu'il y a en dessous par rapport à ce qui remonte du filet. Donc les espèces de poissons, évidemment, mais aussi les roches, les vases, les cartographies faites d'avant et maintenant. Donc il y a une capacité de projection. Et ensuite, on a rencontré des océanographes d'aujourd'hui, dont Dominique Pelletier, qui a inventé un système de caméras sans plongeur, autonome, pour avoir une vision du monde sous-marin avec le moins d'interventions possible. Et se pose la question du cadrage, se pose la question de où, quand, à quelle fréquence est le film. Est-ce que ce qu'on voit, ça lève le mystère ou est-ce que ça l'épaissit? En fait, de nouvelles questions surviennent quand on a une image et on n'a pas tout le hors-champ de l'image en plus. Donc c'était vraiment ce chemin-là qu'on voulait faire avec le spectateur et avec le théâtre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on suscite comme image mentale et comment nous, on fait une mise en scène entre ces deux pôles. Moi, j'adore travailler dans mon lit. J'adore travailler dans mon lit. Je suis très bien. Je peux rester une journée à travailler dans mon lit, une semaine à travailler dans mon lit. Voilà, j'aime travailler dans mon lit et puis de temps en temps aussi dans les cafés. Mais c'est vraiment... Oui. Et puis quand je suis en tournée ou en résidence, je travaille quand même dans le lit de l'hôtel ou de la maison où on est en résidence. En fait, j'ai toujours eu des bureaux... même adolescente, pour faire mes devoirs, je travaillais dans mon lit. Je travaille peu sur un bureau, donc c'est soit dans mon lit, soit à la table d'un café en général. Et j'aime bien travailler avec les autres. À un moment donné, voilà, j'ai besoin aussi de la discussion beaucoup. À un moment donné, je sature. J'ai besoin de moments d'isolement et d'affronter une forme de solitude et de choix par rapport au sujet, aux matériaux et de plonger dans ce temps-là, mais j'ai aussi besoin d'un aller-retour, voilà, des temps différents, mais j'ai vachement besoin d'éco-autrices ou des collaborateurs avec qui je fais les pièces. Ça m'aide beaucoup aussi à certains moments à passer des caps dans le travail.